Session théologique sur l'Église à la lumière de l'Apocalypse par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 21 août 95, deuxième conférence.
Je réponds d'abord aux questions, puis on continuera. À défaut de partir du livre de Daniel, comprendre l'Apocalypse, ne vaut-il pas lire d'abord les Apocalypses que Jésus nous donne dans l'Évangile, notamment Saint Matthieu, chapitre 24, plutôt que de se lancer directement dans la lecture d'Apocalypse? N'est-ce pas l'Évangile qui nous donne toute la lumière sur le retour du Christ? Oui, si nous avons le temps, très bien, lisez le chapitre 24, je suis tout à fait d'accord. On a tellement peu de temps. C'est pour ça que je me jette dans l'Apocalypse. Et puis l'Apocalypse est après les évangiles de Matthieu et de Marc. C'est vous bien ça. L'Apocalypse a été écrit vers l'an 90. Et tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Matthieu et Marc. Et Matthieu spécialement. C'est bien avant. 45-50. Alors, il y a un progrès dans la révélation. Il y a un certain développement. Ce qui est très curieux, c'est un fait, que voulez-vous? Ce qui est très curieux, c'est que les trois écrits johanniques, je sais très bien qu'on discute aujourd'hui, mais je prends comme l'Église, de fait, les a considérés. L'Apocalypse, la première épître de Jean, et l'Évangile. Et l'Évangile dernier. Les trois écrits johanniques terminent toute la révélation. Donc, de fait, ils sont ceux qui explicitent de la manière la plus parfaite un sujet aussi délicat que ce point de vue. Non pas seulement du retour du Christ, mais de l'économie divine sur l'Église. Parce que c'est ça qu'on cherche. Évidemment, le terme d'un mouvement, donc du pèlerinage de l'Église sur la terre, est éclairé par son terme. C'est sûr. Quand vous allez prendre le train, vous ne dites pas... Désire un billet. Et où le billet? Je sais pas. Je prends un billet. On prend un billet pour aller à Paris. On prend un billet pour aller à Lyon. C'est le terme qui donne le sens au mouvement. C'est vrai, ça. Point de vue humain. C'est comme ça. Le terme du voyage. Et donc, c'est bien le retour du Christ qui nous donnera la signification plénière vis-à-vis de l'Église. Et du mouvement. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de théologie scientifique de l'Église. Au point de vue de l'Église, j'ai de fait des actes des apôtres. Le point de départ de l'Église. Très important. Très important. Cette décision si extraordinaire de Pierre et de Paul quitte la Galilée, qui quitte Jérusalem pour aller à Rome. C'est invraisemblable. J'aime beaucoup, moi, de réfléchir là-dessus, parce que je trouve que c'est une décision si importante pour l'Église. Vous voyez, le lieu où Jésus a vécu, le lieu où Jésus est mort, on quitte ça, on va à Rome. Quelle idée! C'est extraordinaire. Il y a un Galiléen qui fait ça. Un homme qui aime son pays, quand même, le lac de Galilée. Quand on a été sur le lac de Galilée pendant toute sa jeunesse, on ne peut pas le quitter. Nous ne l'aurions pas quitté, nous. Il faut cette jeunesse de Pierre sous le souffle de l'Esprit-Saint. Et Saint Paul qui est là pour lui dire d'y aller. C'est extraordinaire, ça. Les actes des apôtres et le terme, puisque c'est un mouvement, c'est un pèlerinage. Non, le terme. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas mettre en 2000, je n'en sais rien. Je peux mettre qu'il y a une tension vers l'an 2000 qui est très particulière. Ça, oui. Mais troisième millénaire, alors il se passera dans le ciel. J'en sais rien. C'est très gênant pour un mouvement. On connaît le point de départ, c'est pas des façons de dire. On connaît deux périodes importantes. 1000. Oui, mais c'est assez vague. Puis, dernier. Et ceci m'est donné sous un mode symbolique, l'Apocalypse. Le gouvernement d'Église. Vous n'avez pas, vous avez des textes de Matthieu qui donnent le retour du Christ. Mais ce que nous essayons de comprendre avec Alix, c'est la mission d'Église. C'est comment l'Église est mue par l'Esprit Saint. Et le terme, très important, puisque c'est ça qui donne toute la signification dernière, il ne m'est pas donné d'une façon précise. C'est pour ça que je crois qu'il faut avoir l'audace de regarder l'Apocalypse pour l'Apocalypse. Et la grande lumière qu'ils mettent dans l'Apocalypse, c'est l'évangile de Jean. Plus que tout le reste. Plus que Matthieu. Beaucoup plus. Et la première épître. Les trois écrits johanniques se tiennent. Et les trois écrits johanniques ont leur structure propre qui est de fait l'ultime moment de la révélation. C'est un fait. Alors je sais très bien que certains disent que l'évangile de Jean a dû être écrit bien avant en araméen. Hypothèse scientifique. Je ne bâtis pas ma regard théologique sur les hypothèses scientifiques. Parce que depuis que je fais de la théologie, les hypothèses ont changé et changent tout le temps. C'est normal, une recherche. C'est intéressant. Je bâtis sur l'écriture portée par la tradition et donnée par l'Église. L'Église n'a pas dit du tout que ceux qui faisaient cette hypothèse que l'évangile de Jean avait été écrit en araméen avant, qu'il a été traduit par Jean, et du moins qu'il a été donné à Alvin. Donc, sur des hypothèses scientifiques. L'Église a toujours considéré l'évangile de Jean, c'est Père Feuillet qui dit ça, comme la perle. Et quand il voyait certains exégètes actuels qui prennent une paire de ciseaux, comme ils disent, l'exégèse à paire de ciseaux, alors on prend une paire de ciseaux pour dire « Ah, ce petit paragraphe n'est pas à sa place, on doit le changer. » On n'a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qui donne le droit de modifier ce que la tradition m'a donné ? Si l'Église le dit oui, très bien, elle a le droit, elle. C'est la seule chose. Elle est gardienne des Écritures. Mais, alors, c'est de fait, je suis tout à fait d'accord, si j'avais le temps, je lirais Daniel. Je lirais ce qu'on dit dans un Matthieu. C'est sûr. Mais ce n'est pas le gouvernement d'Église. Ce que nous essayons, à travers l'Apocalypse, c'est de découvrir cette théologie de l'économie divine. Et cette théologie de l'économie divine, c'est tout ce parcours. C'est pour ça que tout ce qui est passé m'intéresse. Beaucoup. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir vers quoi je vais. Et ça, l'Apocalypse est unique pour ça. Et c'est pour ça que nous prenons l'Apocalypse. Pas parce que l'Apocalypse, ça nous intéresse spécialement, c'est vrai. Je crois que l'Apocalypse intéresse tout le monde. Vous savez, et je comprends. Dès qu'on découvre l'Apocalypse, dans sa jeunesse, on ne la quitte plus. Quand on la découvre dans sa vieillesse, c'est dommage que je ne l'ai pas découvert avant. Et c'est vrai que moi, les trois livres de Saint Jean, Je considère que c'est quelque chose d'unique, absolument unique. Et le père Feuillet, qui est un excellent exégète, je crois, un des meilleurs de notre monde d'aujourd'hui. Pour lui aussi, c'est ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau. Alors je ne fais pas d'exégèse, je fais de la théologie. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre le mystère de l'Église dans la lumière qui nous est donnée dans l'Apocalypse. Alors on va voir ça progressivement. Deuxièmement, je reviens sur une question qui a été posée. Je comprends qu'elle a été posée, j'étais vite. Je ne critique en rien ce que l'abbé Journet a fait sur le mystère de l'Église. C'est très beau, il faut le lire. C'est très très beau. Mais ce que je voulais dire, c'est que je n'aime pas de dire que saint Thomas aurait oublié de traiter de l'Église dans sa somme théologique. Saint Thomas a eu une audace extraordinaire. Ça, c'est son originalité. De faire une théologie dite scientifique. Aujourd'hui, on dit théologie spéculative. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que saint Thomas l'appelle. Théologie scientifique. C'est-à-dire chercher l'intelligibilité la plus grande que nous pouvons avoir vis-à-vis des mystères qui nous sont révélés. Mais je suis de plus en plus persuadé que saint Thomas lui-même reconnaît qu'il y a d'autres modalités de la théologie, surtout la théologie mystique. Il le reconnaît. Et que les théologiens thomistes qui aiment saint Thomas ont répété Thomas d'Aquin, ont voulu, à travers la théologie scientifique, tout mettre. Alors que je crois, je me trompe peut-être, c'est une hypothèse de recherche, une hypothèse de théologien, j'ai le droit de faire cette hypothèse, que de fait, la foi ne transforme pas ma manière de connaître au point de vue humain. Ça, l'Église le reconnaît. Et je puis mettre mon intelligence fortifiée, perfectionnée grâce à la philosophie et une philosophie réaliste qui cherche ce qui est. Une philosophie qui cherche la vérité au service de la parole de Dieu pour faire une théologie. C'est ça la théologie. La théologie, ce n'est ni la philosophie, ni la foi. Mais c'est la foi qui assume et qui met à son service la philosophie. La philosophie étant ce qui vient perfectionner mon intelligence. C'est normal. Mon intelligence est capable de se perfectionner. Elle est capable de se perfectionner elle-même par la sagesse acquise qui est une philosophie. C'est la première sagesse. Sagesse acquise. Et donc, cette sagesse acquise qui est la philosophie, mais l'intelligence, dans un état de perfection, elle peut plus facilement être au service de la foi si elle est dans cet état de perfection que si elle est dans un état brut, non perfectionné. L'intelligence à l'état brut, non perfectionné, sans la philosophie, parce que la philosophie est faite pour rendre plus intelligent. C'est le seul but, d'avoir une pénétration plus profonde de la réalité et de l'homme en définitive, dans toutes ses dimensions, de la personne humaine, dans toutes ses dimensions. Cette philosophie qui vient perfectionner mon intelligence, qui lui donne une sagesse acquise, permet à mon intelligence d'être au service de la foi. n'avez qu'à réfléchir un instant sur le fait que chaque fois que vous faites un acte de foi, votre intelligence est au service de la foi. Vous ne pouvez pas faire un acte de foi tout pur sans l'intelligence. Non. La foi n'est pas une puissance nouvelle de l'esprit, distincte de l'intelligence. La foi est reçue dans mon intelligence. Et tout acte de foi implique un acte d'intelligence. C'est pour cela que lorsque mon intelligence est fourvoyée dans une idéologie athée, le marxisme, le positivisme, l'évolutionnisme absolu, les sept grandes formes d'idéologie athée, puisqu'il y en a sept, qui ont de fait éclos à partir de notre Europe chrétienne. C'est un fait. Depuis 150 ans. On voit la montée de 7 ou 8 formes d'idéologie athée. Et nous respirons cet air-là. C'est sûr. On respire cet air-là. Oui, on parle beaucoup de la pollution de la mer, de la Méditerranée, la pollution des villes, Tokyo, Mexico, Paris, toutes les grandes villes. Pollution de l'air. Il y a une pollution bien plus forte. C'est la pollution du milieu de culture humaine. Cet air-là est pollué. Il est vicié par ces idéologies athées. Et on respire ça. Et c'est pour cela que quelquefois, notre foi a tellement de peine de progresser. Notre foi a tellement de peine de s'exercer librement. Parce que je ne fais pas seulement un acte de foi, mais c'est mon intelligence viciée par ces idéologies athées qui doit être au service de la foi. On oublie trop ça. On l'a très bien vu dans les pays qui ont été marxisés, qui ont été sous la botte de l'idéologie marxiste. Et les plis de l'intelligence marxisée ont fait que les actes de foi étaient beaucoup plus difficiles. J'avais l'avantage à Fribourg de temps en temps d'avoir des étudiants qui venaient des pays de l'Est. Et eux-mêmes me disaient la difficulté qu'ils avaient de retrouver une philosophie réaliste. Alors que c'est naturel. L'intelligence, elle est faite pour regarder les réalités. Mais par les idéologies athées, elle est détournée de son but. Elle est malade. Et d'une maladie quelquefois très grave, qui peut conduire à la mort spirituelle. Et alors à ce moment-là, l'intelligence humaine ne recherche plus la vérité. Elle se laisse prendre par des biens secondaires qui lui sont agréables. Et la foi a une peine énorme de pouvoir dépasser ce poids des idéologies athées. Alors, une fois qu'on a compris que la foi ne modifie pas ma structure de mon intelligence humaine et de ma raison humaine, et que de fait, la réalité que j'essaie de connaître au plan philosophique, et au plan philosophique, la réalité que je cherche en premier lieu, c'est de savoir ce qu'est l'homme. Ce que les mathématiques ne cherchent pas, ce que les sciences dites modernes ne cherchent pas directement. Elles cherchent des aspects particuliers, mais l'homme est la personne humaine. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Qu'est-ce que c'est que la personne humaine ? L'intelligence humaine n'atteint le réel que de façon diverse, n'atteint l'homme que de manière diverse. C'est pour ça que on parle de connaissance analogique, parce qu'il y a des regards divers sur la réalité. Et c'est toujours pourtant le même désir de connaître l'homme dans toute sa perfection. Et quand vous visitez une petite église romane que vous aimez la voir le matin au lever du jour, première lumière. Si vous l'aimez beaucoup, vous aimez la voir le soir, coucher de soleil. Et c'est différent. Et puis quand vous entrez, vous aimez la regarder sous des points de vue différents. C'est toujours la même église, mais il y a des points de vue différents. C'est ce qu'on appelle une connaissance analogique. Elle est diverse et elle est une. Et de fait, ma philosophie réaliste qui cherche ce qu'est l'homme, il y a des points de vue différents. Il y a l'éthique, philosophie de l'opération morale. Et puis, il y a la métaphysique. Les deux extrêmes. Puis il y a la philosophie du vivant. Puis il y a la philosophie de la matière. Et ceci sont des aspects différents de la même réalité. Alors, je peux me dire que la réalité que la foi regarde, quelle est la réalité que la foi regarde ? La foi est réaliste, d'un réalisme divin. La réalité que la foi regarde, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Je me nourris de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, elle a des dimensions diverses. Si vous essayez de préciser ces dimensions diverses. Vous croyez que la parole de Dieu implique une dimension intelligible. C'est-à-dire Dieu qui me parle. Dieu qui me parle. Dimension divine. Il m'enseigne. Dieu m'enseigne par sa parole. J'ai une dimension d'intelligibilité. Et j'essaie de comprendre toute l'intelligibilité de la parole de Dieu qui m'est communiquée. Dans l'évangile de Jean, dans la première épître, dans l'Apocalypse, dans les évangiles et dans tout l'Ancien Testament. La parole de Dieu a encore une autre dimension. Elle m'est donnée à travers une histoire. Il y a un développement. Il y a un développement de la parole de Dieu. Je ne lis pas de la même façon le premier moment de la révélation. Abraham qui reçoit un message de Dieu et Marie à l'annonciation. D'Abraham à Marie, c'est quand même un certain développement. Et pourtant, c'est le même, la foi d'Abraham et la foi de Marie. Et la même foi surnaturelle, mais elle a une modalité différente. révélation, un développement d'Abraham à Marie, de Marie à Jean, qui écrit son évangile. Ça fait des aspects différents. Il y a un devenir. La parole de Dieu, elle est gardée dans l'Église. La bonne terre. L'Église garde la parole de Dieu. C'est la fonction première de l'Église, de garder la parole de Dieu. C'est pas la seule fonction de l'Église, mais c'est de garder la parole de Dieu. Et elle la garde à sa manière. Et puis la parole de Dieu, elle a encore une autre dimension. C'est que cette parole, elle est vécue dans des hommes, dans des femmes, dans des prophètes, dans le Christ. Le début de l'Épître aux Hébreux, qui nous montre que la parole de Dieu a été communiquée de multiples façons à travers les prophètes. Il est communiqué d'une façon unique et première, à travers le Fils bien-aimé du Père. Donc, il y a des personnes. Il y a le mystère du Christ. Et ces personnes nous sont données. Elles nous sont envoyées. Et c'est la parole de Dieu qui est vécue dans le cœur des saints. Dieu a une qualité extraordinaire, c'est qu'elle produit et elle inspire l'amour. C'est une parole aimante, ce qui fait comprendre tout de suite que la foi n'est pas une connaissance mathématique ni spéculative, mais une connaissance affective, aimante. C'est le propre de la connaissance de foi. Et donc, j'ai ces quatre dimensions de la parole de Dieu. Et si je comprends bien, je dois développer ces quatre dimensions. Parce que la personne, il y a des gestes. Il y a les gestes de Dieu par les personnes. Et les gestes de Dieu révèle plus l'amour que la parole. Alors, c'est très curieux, c'est que la recherche de la parole dans son intelligibilité me conduit à la théologie scientifique de Thomas d'Aquin. Et je crois qu'au point de vue théologie scientifique, celle de Thomas d'Aquin est la première. C'est la plus limpide, c'est la plus profonde. Elle va très loin. Il ne faut jamais oublier que cette théologie de l'intelligibilité regarde la très sainte Trinité. C'est là où vous comprenez la grandeur d'une théologie scientifique. Et ce que je vous dis là, en disant que c'est celle de Thomas d'Aquin qui est première. Je vous rappelle cette parole d'un grand théologien protestant, Karl Barth, que tous les Suisses connaissent bien. Parle, Karl Barth. Karl Barth dit ceci. C'est une parole qu'on ne doit pas oublier, du reste, parce qu'elle est très intéressante par rapport à Thomas d'Aquin. Karl Barth dit, il est mort il n'y a pas très longtemps, Karl Barth. J'ai connu des disciples en Suisse, des disciples de Barth, qui étaient, il avait un désir de donner une foi extrêmement profonde. Karl Barth dit ceci, sans doute, que Hegel est le premier théologien luthérien. Hegel, considéré comme le premier théologien luthérien. C'est celui qui a parlé de la très sainte Trinité de la manière la plus profonde. Et Karl Barth ajoute, mais peut-être que Thomas d'Aquin en a parlé d'une manière encore plus profonde. J'aime beaucoup cette phrase. Parce que quand on critique Thomas d'Aquin, je dis, regardez ce théologien protestant, ce grand théologien protestant, que tout le monde respecte. Voilà ce qu'il dit sur Thomas d'Aquin. Quand il compare Hegel et quand il compare Thomas d'Aquin. C'est beau comme phrase hein, et comme témoignage. Le premier théologien le plus profond du luthéranisme, c'est Hegel. Mais peut-être que Thomas d'Aquin était plus loin. Donc on reconnaît la profondeur de la théologie scientifique de Thomas d'Aquin. Je crois que c'est vraiment lui qui était le plus loin. Thomas. Scientifique et cette théologie mystique. C'est une théologie qui montre comment toute parole de Dieu s'achève dans l'amour, que la parole de Dieu nous donne les saints, les prophètes, le Christ, Marie. C'est la théologie mystique. Puisque la parole de Dieu est donnée à travers une histoire, il y a l'Ancien Testament, ou le Testament premier, et le Nouveau Testament. C'est évident que c'est deux aspects très différents. Il y a donc la grande montée. Vous avez là une théologie biblique. Vous essayez de comprendre le devenir de la révélation. C'est très intéressant, surtout pour notre monde d'aujourd'hui. Et puis, il y a l'Église. Elle qui, Dieu dedans, garde la parole de Dieu. Alors, l'Église, c'est le grand vivant. Toute relative au grand vivant, au super grand vivant, qui est le Christ. Le Christ sauveur. L'Église a quelque chose de particulier parce qu'elle garde la parole de Dieu comme la bonne terre et elle permet le développement intérieur de la parole de Dieu dans le cœur des saints. Il y a tout le mystère de la tradition. L'Église est gardienne de la tradition. Et cette tradition implique justement ces deux dimensions de l'économie divine. C'est la théologie de l'économie divine. C'est-à-dire les deux grandes dimensions. Conservare. Rénovare. Les deux grands effets. Je crois que la théologie implique ces quatre grands développements. Vous voyez ? Et qu'est-ce qu'il y a eu ? Parce qu'on vit un drame au point de vue théologique aujourd'hui. Le Saint-Père l'a déclaré nettement dans son encyclique Splendor Veritatis. Il a dit, il y a une crise de la vérité. Il y a une crise de la vérité. Et cette crise se fait sentir spécialement au niveau de la théologie morale. Pourquoi ? Parce que on s'est arrêté à la théologie scientifique, voulant tout mettre dans la théologie scientifique, oubliant que la parole de Dieu a des dimensions différentes qui foi se sert différemment de la philosophie. La théologie scientifique se sert avant tout de la philosophie métaphysique. De toutes les parties de la vie, donc la sagesse métaphysique. La théologie biblique se sert d'une philosophie du devenir. Comment se développe la parole de Dieu ? La philosophie de l'Église se sert d'une philosophie du vivant. Pas de la science biologique, mais de la philosophie du vivant. Et la théologie mystique se sert avant tout d'une philosophie morale. Morale au sens très fort, c'est-à-dire une philosophie morale et artistique. Pourquoi ? Parce que l'Église, elle est mue par l'Esprit Saint. Et l'Église est une œuvre de l'Esprit Saint. C'est le temple de Dieu, le temple du Christ qui s'édifie sous l'action de l'Esprit Saint. Donc c'est le mystère de l'Église. C'est pour ça que je vous disais ce matin que ne cherchons pas à regarder le développement de l'Église du côté de la théologie scientifique. Parce que la théologie scientifique, elle regarde avant tout les principes propres, puisque c'est une science, qui sont subalternés à la science des saints. Et l'Église, elle est toute relative au Christ. Je vous disais ce matin, la mission de l'Église est la même que la mission du Christ. Il n'y a pas deux développements différents. Il y a deux développements différents, oui, mais tous les deux ont une continuité, une unité profonde. Et c'est pour ça que l'Église ne peut pas être vue dans une théologie scientifique. La théologie scientifique a un regard sur l'Église, sur la tête, le Christ. Le Christ sauveur. Le Christ qui nous a sauvés par la croix. C'est la sagesse de la croix qui s'achève dans la sagesse de la résurrection. C'est cela avant tout. Et on voit les sacrements comme nous communiquant les gestes du Christ. C'est vrai, les sacrements nous communiquent les gestes du Christ. Mais on peut étudier l'Église. Vous voyez, on peut étudier l'Église au niveau, donc, comment l'Église implique relativement au Christ toute une intelligibilité. On peut étudier l'Église dans le devenir, la préparation. On peut étudier l'Église pour elle-même, comme le grand vivant, tout entier relatif au Christ. Et c'est là où on découvre ce qu'il y a de très particulier au mystère de l'Église, dans une perspective de l'économie divine. Et on peut étudier l'Église d'une façon mystique, dans le cœur de Marie, dans le cœur des saints. Oui, alors, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est de regarder le mystère de l'Église comme le point de vue d'une théologie de ce vivant, la vie d'Église. Et je vous dis ça très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais c'est pour vous faire comprendre que si je regarde l'Église uniquement au niveau de la philosophie scientifique, je saisis un aspect de l'Église, mais pas l'Église pour elle-même. Si je regarde la théologie biblique, je vois un aspect de l'Église, mais pas l'Église pour elle-même. Si je vois la théologie mystique, je regarde un aspect de l'Église, mais pas pour elle-même. Il faut une philosophie, une théologie propre à l'Église pour la regarder pour elle-même. Et comment puis-je regarder l'Église pour elle-même? C'est de regarder qu'elle est un vivant qui a sa croissance, son développement tout entier relatif à Jésus. Alors, si je me mets dans cette perspective, l'Apocalypse m'apparaît comme un livre capital pour le traité de l'Église. Et je suis très étonné de voir que on a si peu étudié l'Apocalypse quand on regarde l'Église. Alors que, de fait, c'est le grand livre de l'économie divine. Alors nous nous plaçons dans cette perspective-là, voyez, pour essayer de mieux comprendre le mystère de l'Église. Il y a d'autres manières, c'est évident, je suis tout à fait d'accord. Et je dirais, ce qu'a fait l'abbé Journet, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas, il me semble, la manière dont on doit regarder l'Église pour elle-même. On doit la regarder comme un vivant. Alors, avec tout ce qu'il y a de particulier pour le vivant, et ça me semble beaucoup plus vital et beaucoup plus intéressant. Alors maintenant, si vous voulez bien, nous allons commencer cette étude de l'Apocalypse. Alors on va d'abord donner ce que j'aime de dire, ce qui est nouveau, point de vue, connaissance, une vision aérienne de l'Église, de l'Apocalypse, une vision aérienne. Vous voyez bien, tous ceux qui vont en avion et qui regarde le Sahara en vision aérienne, les Alpes en vision aérienne, c'est intéressant, le pôle Nord en vision aérienne, le grand désert du Sahara en vision aérienne. Évidemment, c'est pas du tout la même connaissance que quand on est par terre, sur le sol. Fait moins chaud. Et l'air est conditionné, malheureusement, mais ça va heureusement d'une certaine manière, mais malheureusement, parce qu'on ne le vit pas tout à fait. C'est une très belle invention, l'air conditionné, mais c'est désastreux. Vous voyez, notre peau n'est pas faite pour l'air conditionné. Notre peau est faite pour contact avec le réel. Alors, s'il fait très chaud, fais attention, on se prend des vêtements de laine pour faire une climatisation qui fait qu'on ne bouge pas. J'ai tous les vêtements des pays chauds, on fait comme ça. Il n'y a que les gens des pays froids qui dès qu'il fait chaud, lèvent tout. Ils ne savent pas que c'est pas comme ça du tout qu'on lutte contre la chaleur. Au contraire, vous vous exposez à la chaleur en faisant ça. Dis autrement, camouflez-vous. Mettez-vous une vision, on met un capuchon, tout est fait pour ça, et puis on met un turban, et on traverse tout ça. Il fait peut-être un peu chaud, mais il fait beaucoup moins chaud que celui qui se fait griller. Et on garde une peau fraîche, parce que ça dit qu'autrement, elle pèle. Alors regardons ça, voyez, rapidement, je ne peux pas m'étendre. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant. J'aime beaucoup les visions aériennes, la vision aérienne de l'évangile de Jean, la vision aérienne de toute la révélation. On voit l'ordre, l'harmonie, de façon très étonnante. Il y a des reliefs qu'on n'aurait jamais vus autrement. Je commence par lire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses disciples ce qui doit arriver bien vite. Alors voyez, révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous révèle le mystère de l'Église. Il l'a signifié par l'envoi de son ange à son esclave Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alors c'est très curieux. Cette révélation de Jésus-Christ, elle nous est communiquée, elle est communiquée à Jean, à travers l'ange, l'envoyé. Vous savez que dans l'Apocalypse, il y a des quantités d'anges. Celui qui ne croit pas aux anges n'a qu'à lire l'Apocalypse. L'ange, c'est l'envoyé. Et Jean aime beaucoup cela. Jésus, c'est l'envoyé. Dans l'évangile de Jean. L'envoyé du Père. Alors, je me pose la question. J'ai le droit de me poser des questions. Je ne vous demande pas d'y adhérer, ça, réfléchissez. Je me demande si cet envoyé, parce qu'on doit savoir c'est qui quand même, si ce n'est pas Marie, reine des prophètes. Qui peut être envoyé à Jean pour cette fameuse révélation, cette révélation extraordinaire? La révélation de Jésus-Christ. Et on comprend très bien, puisque quand on lit l'Apocalypse d'un seul trait, on est un peu assommé. Hein. Comment Jean a-t-il reçu ce message? Et Jésus le sait bien. Et Jean est un vieillard quand il reçoit ça. Il doit avoir 80, 85 ans, 90 ans. Alors, est-ce que Dieu n'a pas eu cette très... Jésus-Christ n'a pas eu cette très grande miséricorde de tamiser cette révélation à travers le cœur, l'intelligence de Marie? Je me pose la question pour que vous-même vous la posiez. Alors vous pouvez dire, on ne sait pas, très bien, très bien. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse est faite pour qu'on interroge l'Esprit Saint. C'est pour ça que ça nous est donné sous un mode symbolique. Marie est l'envoyée. C'est bien évident. Depuis qu'elle a reçu la visite de l'envoyé, Gabriel, qui est un excellent envoyé, elle a compris que c'était très grand d'être un envoyé. Je crois que c'est Marie. Oui, ça me donne la loupe, ça. Comment regarder l'Apocalypse à travers l'envoyé? Il l'a signifié par l'envoi de son ange à son esclave Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur principal. C'est Jean qui est instruit et il y a la médiation de l'ange. La médiation de l'ange. Et pour une révélation aussi extraordinaire, cette médiation est peut-être la plus parfaite de toutes les médiations, celle de Marie. Alors, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Donc il était proche pour Jean, il est encore plus proche pour nous. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans l'Apocalypse, et plus on s'approche du terme, plus l'Apocalypse est vrai. Et ce qui est aussi très extraordinaire, c'est qu'on promet que celui qui lit ce livre ou qui l'entend, donc vous, vous êtes heureux. On cherche tous à être heureux et on ne lit pas l'Apocalypse. Il faudrait une grande vitrine. Tous ceux qui désirent être heureux vendent de l'Apocalypse. Et on le donnait gratuitement. Heureux, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Alors on désire tous être heureux, vous voyez. Vous serez heureux au cours de cette session. Ça c'est sûr. Attendez, prendre la photographie avant. Je ne vous ai pas vu. Et on sera tous heureux. C'est merveilleux de voir ça. Il y a une promesse. Hein. Une promesse. Et là, on va essayer de voir comment on entre.